Laudetur Jesus Christus.
Une offensive israélienne sur la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, est de plus en plus proche, en témoignent les derniers mouvements de troupes au sol. Une guerre sans fin, alors que le pape a rappelé encore hier une solution à deux États. Joe Biden promulgue le décret d'aide à l'Ukraine, 61 milliards de dollars d'aide économique et militaire. Y figurent notamment des armes de longue portée, des armes américaines qui sont déjà utilisées par l'armée ukrainienne. Dans ce journal également, nous irons en Allemagne où les nuages s'assombrissent pour le parti d'extrême droite AfD dans la course aux européennes. Notre correspondante à Berlin nous expliquera pourquoi. Nous entendrons aussi la préoccupation des évêques de France face au projet de loi sur la fin de vie. Ils étaient hier auditionnés par la commission parlementaire qui travaille sur ce dossier sensible. Et puis dans notre dossier ce matin, un anniversaire, celui de la révolution des œillets au Portugal. C'était il y a tout juste 50 ans. Que représente aujourd'hui la fin de la dictature Salazar dans le pays? Nous en parlerons avec notre invité.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour. L'offensive israélienne sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, semble chaque jour se rapprocher depuis plusieurs semaines et malgré les mises en garde de la communauté internationale, le gouvernement de Benjamin Netanyahou affirme qu'une intervention terrestre dans cette ville aura bien lieu et les derniers mouvements sur le terrain semblent le confirmer. À Tel Aviv, Ariane Ménage.
L'armée israélienne remobilise en préparation d'une opération à Rafah. Deux brigades de réservistes sont appelées, quelques milliers d'hommes. Annoncée de longue date, une opération à Rafah semble se rapprocher. Des images satellites de Gaza publiées par l'agence de presse américaine AP montrent aussi un campement de tentes installé près de la ville de Khan Younes dans le centre de Gaza. Israël se préparait à y déplacer les civils qui, depuis le début de la guerre, avaient trouvé refuge quelques kilomètres plus au sud, à Rafah. Une telle évacuation pourrait prendre plusieurs semaines au moins. L'armée, comme le gouvernement israélien, affirme que 4 bataillons du Hamas sont encore retranchés à Rafah. Plusieurs otages, affirme-t-il, se trouveraient également dans cette ville frontalière. Les préparatifs en vue d'une opération terrestre sont apparemment coordonnés avec l'Égypte voisine. Hier, mercredi, des généraux israéliens se sont rendus au Caire pour une série de discussions avec leurs homologues. L'Égypte, accolée à la ville de Rafah, met en garde contre une catastrophe humanitaire en cas d'intervention terrestre israélienne. Elle prévient que sa frontière avec Gaza restera hermétiquement fermée. Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
Et un autre front de cette guerre est celui au sud, Liban, où Tsahal a mené hier une nouvelle opération de bombardement, frappant 40 cibles du Hezbollah. La moitié des commandants du Hezbollah, cette milice chiite dans le sud du Liban, aurait été éliminée selon le ministre israélien de la Défense. Cette guerre Israël-Hamas dure désormais depuis plus de 200 jours et la perspective de la paix reste toujours lointaine. Dans un entretien à l'Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège, le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizza Bala, rappelle combien la paix ne pourra advenir que par le bas. Le cardinal espère que les deux peuples, palestiniens et israéliens, sauront adopter un nouvel horizon de valeurs, car on ne peut avoir, dit-il, pour seul ciment social celui de se défendre contre un ennemi. Il est nécessaire de se parler, plaide-t-il, sans le courage de se repenser de l'intérieur. Israéliens et palestiniens mettront gravement en péril leur avenir. Un entretien du patriarche latin à lire sur notre site vaticannews.va. Et puis hier, à l'issue de l'audience générale place Saint-Pierre, le pape François avait une nouvelle fois invité à une issue pacifique à ce conflit israélo-palestinien, rappelant l'importance d'une solution à deux États, israélien et palestinien. Une deuxième visite en Chine en moins d'un an pour le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Depuis Shanghai, le secrétaire d'État a appelé ce matin les deux pays rivaux à gérer leurs différends de manière responsable. Une obligation envers notre peuple et envers même le monde, a-t-il souligné. Anthony Blinken qui est attendu demain à Pékin pour plusieurs entretiens bilatéraux. Les États-Unis qui veulent afficher leur soutien à l'Ukraine après des mois de blocage, le Congrès américain a finalement voté le week-end dernier une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide à Kiev, aide économique mais aussi militaire. Cette loi a été promulguée hier par le président Joe Biden. Des armes américaines, notamment de longue portée, qui ont déjà été utilisées par l'armée ukrainienne, a-t-on appris hier à New York, Loïc Loury.
Un aérodrome militaire en Crimée il y a 8 jours et des troupes russes dans le port de Berdiansk sur la mer d'Azov ce mardi. 2 cibles que les Ukrainiens ont touchées sitôt reçues ces nouveaux missiles américains longue portée avec leur rayon d'action de 300 km. Ces armes tactiques étaient réclamées par Kiev depuis longtemps et c'est dans le plus grand secret pour ne pas alerter Moscou que Washington a finalement consenti à les livrer. Ces attaques MS ne faisaient toutefois pas partie de la nouvelle enveloppe de 61 milliards tout juste adoptée par le Congrès, mais bien d'un précédent paquet d'aide de 300 millions débloqué en mars. Une arme livrée à la demande directe du président Biden, dit le département d'État. Et la Russie ne doit pas y voir une provocation, affirme le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Moscou, dit-il, utilisant déjà des missiles longue portée fournis par la Corée du Nord. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Haïti s'apprête à installer son conseil de transition composé de 9 membres de la société civile ou d'anciens politiques. Cette structure sera officiellement installée ce jeudi dans la capitale Port-au-Prince. Sa lourde tâche est de parvenir à rétablir les institutions et nommer un premier ministre dans un pays toujours en proie à la violence des gangs armés. Le conseil de transition a en outre été chargé de préparer Haïti à l'élection d'un nouveau président d'ici le mois de février 2026. En Allemagne, le parti d'extrême droite alternatif pour l'Allemagne, AfD, est sous très forte pression depuis quelques jours à l'approche des européennes. Sa tête de liste pour les élections, début juin, Maximilian Krah, voit les affaires se multiplier après l'arrestation lundi dernier de son assistant. Il est soupçonné d'espionnage pour la Chine et c'est à son tour d'être dans le viseur de la justice allemande. À Berlin, les explications de Delphine Herbollier.
La journée de ce mardi a été intense en rebondissements. Dans la matinée, le député européen Maximilian Krah mettait fin aux fonctions de son assistant, un Allemand d'origine chinoise, arrêté par la justice la veille et soupçonné d'espionnage pour le compte de la Chine. Xiang Guo aurait transmis des informations issues du Parlement européen et espionné des opposants chinois. Dans la foulée, après une réunion avec la direction de son parti, l'AFD, Maximilian Krah annonçait se maintenir comme tête de liste de l'AFD pour les européennes du 9 juin. Pas de démission donc, mais il restera en retrait durant la campagne qui débute ce week-end. Or, à peine cette annonce faite, le même Maximilian Krah apprenait l'ouverture d'une enquête préliminaire contre lui par un tribunal allemand. Cet élu d'extrême droite est soupçonné d'avoir reçu de l'argent de sources russes et chinoises. On avait appris il y a quelques jours déjà que le FBI américain avait interrogé cet homme en décembre pour un dossier similaire. Si les doutes se confirmaient, la justice pourrait ouvrir une enquête formelle et demander la levée de son immunité. Une situation embarrassante à 1,5 mois des élections européennes. Maximilian Krah, lui, nie ces accusations. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
L'horizon qui se bouche également en Grèce pour l'extrême droite puisque la Cour suprême a interdit hier la participation aux élections européennes du petit parti d'extrême droite Spartiate. Il est visé par une enquête pour fraude électorale. 30 formations politiques ont par ailleurs été validées. Une délégation des évêques de France était reçue hier par la commission parlementaire sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. L'occasion pour les évêques d'exprimer une nouvelle fois leur doute sur le bien fondé de ce projet. L'épiscopat qui continue de soutenir le développement des unités de soins palliatifs, notamment par une meilleure application de la législation existante. Devant les parlementaires, Mgr Vincent Jordi, le vice-président de la Conférence des évêques de France, a exposé les risques de dérive, citant les exemples de la Belgique ou encore du Canada. On l'écoute.
Il y a des risques qui sont des risques à moyen et long terme parce qu'on les observe en Belgique, on les observe en Hollande, on les observe au Canada. Et par exemple, en Belgique, en une dizaine d'années, on est passé de critères très stricts, il s'agissait uniquement de personnes majeures, on est passé aux personnes mineures. Maintenant, vous le savez, en Belgique, peuvent être concernés même des enfants. Ensuite, on a vu que le processus, en tout cas de vérification de la mise en œuvre de l'euthanasie et du suicide assisté dans ces pays, parfois peut-être très déficient. On dit qu'en Belgique, à peu près un tiers des euthanasies sont clandestines, non, ne sont pas déclarées. La Cour européenne des droits de l'homme a retoqué la Belgique, justement, pour ce manque de contrôle. Et puis, alors au Canada, on a vu que, et ça c'est un effet qui nous paraît extrêmement problématique, c'est que plus on fait la promotion de l'euthanasie, plus évidemment disparaissent les soins palliatifs et peu à peu s'effacent. Quand vous n'avez plus que comme choix l'euthanasie parce que les soins palliatifs sont devenus peu à peu déficients, eh ben vous n'avez plus le choix. Et puis d'autre part, il y a d'une certaine manière une telle pression sur les esprits que les gens ont le sentiment que la seule solution pour eux, c'est finalement de consentir, d'accepter l'euthanasie, d'aller vers le suicide assisté.
L'inquiétude de l'évêque de l'Église de France face au risque de l'euthanasie, Mgr Vincent Jordy, le vice-président de la Conférence des évêques de France, était interrogé par Jean-Charles Puzolu. C'est une petite fleur rouge qui symbolise la liberté recouvrée au Portugal. L'œillet, comme le nom de la révolution qui eut lieu il y a tout juste 50 ans et qui mit fin à près d'un demi-siècle de dictature dominée par Antonio Salazar. Le 25 avril 1974, un groupe d'officiers de l'armée renverse le régime. Ces capitaines d'avril, comme ils seront désignés, qui arborent un œillet au bout de leur fusil, mettent en place une transition politique qui entend faire table rase du passé et construire la démocratie dans un pays resté à la traîne du reste de l'Europe de l'Ouest. Si les commémorations cette année sont obscurcies par la présence grandissante de l'extrême droite qui se réclame en partie de la dictature salazariste, que représente aujourd'hui cette fête de la liberté, jour férié au Portugal ? Élément de réponse ce matin avec notre invité Yves Léonard, historien spécialiste du Portugal. Il est membre du Centre d'histoire de Sciences Po à Paris.
C'est une date phare de l'histoire du Portugal contemporain. Une fois qu'on a dit ça, et notamment auprès des jeunes générations, c'est plus compliqué dans la mesure où beaucoup d'entre eux ignorent assez précisément ce qui s'est passé le jeudi 25 avril 1974, il y a 50 ans. Autrement dit, ils retiennent l'idée d'un moment important, mais sans pour autant mesurer les implications, ce qu'était la réalité du pays avant ce 25 avril 1974, sont déroulées et ces implications, ces répercussions qui ont engendré ensuite le processus démocratique et tout ce qui a suivi. Donc, c'est très ambivalent.
Quel est le legs le plus important, le plus notable de cette révolution des œillets ?
Ah, ils sont multiples. D'abord, la liberté. C'est le jour de la liberté et c'est certainement la chose qui reste le plus et qui est la plus solidement identifiée. C'est le jour où les libertés publiques, les libertés individuelles ont été rétablies, ont été restaurées. Tout est redevenu possible après 48 ans de dictature qui avait mis sous le boisseau les libertés publiques. Ensuite, deuxième legs, bien évidemment, sur un angle politique, c'est ce basculement qui a rendu possible le processus vers une transition démocratique et cette phase d'arrimage, de consolidation de la démocratie qui a pris du temps. Après, il y a, je dirais, sur le plan sociétal, social, il y a eu énormément d'avancées, beaucoup de bouleversements, dont la Constitution de 1976 a tenu compte, qu'elle a gravé dans le marbre en quelque sorte, et dont ensuite un certain nombre de politiques publiques se sont inspirées pour notamment promouvoir un État social, un État-providence avec un système national de santé qui était un peu dans les cartons, si l'on peut dire, de la Révolution et s'est épanoui à partir de la fin des années 1970 et qui a prouvé toute son importance lors de la crise sanitaire du confinement il y a de cela quelques temps.
Est-ce que ça reste encore un élément structurant de la vie politique actuelle ?
Oui, au sens où traditionnellement les partis de gouvernement se reconnaissent pleinement dans le 25 avril. Ce qui est en train de changer ces derniers mois, c'est qu'il y a l'arrivée sur l'avant-scène politique d'un parti d'extrême droite qui, lui, ne fait pas mystère, chègue de son hostilité au 25 avril. Le 25 avril étant considéré comme quelque chose qui finalement a provoqué plus de désagréments et été plus néfaste pour le Portugal et que la situation le 24 avril 1974 était finalement préférable à celle qui a suivi.
Comment expliquer finalement cette amplification de la contestation de l'héritage de la révolution des œillets ?
La révolution des œillets, son nom l'indique d'ailleurs, ça a été pensé comme une rupture, comme une césure entre un avant et un après. Autrement dit, à la différence d'autres types de transitions qu'on a vues par la suite, en Espagne notamment, qui sont des transitions pactées, négociées, au Portugal, rien de tout ça. Un certain nombre d'acteurs de l'époque considèrent que le 25 avril, ce n'est finalement qu'une révolution portée par la gauche, des marxistes, et qu'elle ne traduit en rien les attentes d'une partie de la société portugaise. Après, ça doit être aussi intégré dans la tonalité générale qu'on observe à l'échelle européenne et à travers cette désignation du 25 avril comme une espèce de dérive radicale, marxisante, extrémiste, il y a sinon un désir de revanche, mais une résurgence sur l'avant-scène d'idées qui avaient été mises un peu sous les ténoirs par plusieurs décennies de pratiques démocratiques au Portugal.
Voilà, l'héritage de la révolution des œillets à la une de notre dossier ce matin, interrogé par Xavier Sartre, l'historien Yves Léonard, spécialiste du Portugal, était l'invité de Radio Vatican. Et c'est au Portugal que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 13h en direct de Rome. Excellente journée à tous.